Nom, Abdel Fadel. Prénom, Yasmine. Mission, nuancer l'actualité pour vous offrir des perspectives. Force, connaissance accrue de la politique et une polyvalence hors du commun. Yasmine Abdel Fadel.
La Québécoise Marie-Pierre Desharnais a gravi avec succès le K2, reconnu comme étant l'une des montagnes les plus difficiles au monde. Et elle a réussi à atteindre le sommet de 8611 mètres à la frontière sino-pakistanaise. Et on a l'immense honneur de l'avoir avec nous. Bonjour Marie-Pierre Desharnais.
Bonjour, vous êtes si gentille. Merci beaucoup.
Ben, on est très fiers de votre accomplissement. J'imagine que vous aussi, mais racontez-nous ce périple. Quels sont les moments marquants de ce périple?
Ah, c'est sûr que ça a été une expédition plutôt longue, un total de 6 semaines. Je me trouve encore au Pakistan, figurez-le ou non, donc c'est toujours pas fini. On attend les valises qui sont sur des mules et qui ont ensuite été prises dans des glissements de terrain alors que la route s'est effondrée. Fait que c'est des péripéties jusqu'à la fin. Mais je vous dirais que il y a eu plusieurs moments marquants, non seulement l'ascension comme telle là, qui était assez éprouvante, mais la descente a été était effrayante à un point où j'ai pensé peut-être laisser ma peau. On sait que c'est le K2 est très, très, très escarpé et il y a eu plutôt plusieurs grimpeurs la journée où on a pu accéder au sommet. Là, donc, c'est sûr que c'était beaucoup de grimpeurs aussi à la descente, une descente qui a pris 2 jours. Une descente qui est parsemée de chutes de roches, des éléments sur lesquels tu n'as aucun contrôle. Donc, tu as beau être un grimpeur hors pair, avoir des aptitudes, une endurance de feu. Les chutes de roches, c'est littéralement, là, c'était pour nous une roulette russe. C'était vraiment un défi assez monumental que de pas se faire frapper par tout ça qui tombait d'en haut du ciel avec une vitesse folle. Ça passe à côté de toi à je sais pas combien de milles à l'heure, mais ça fait un son du tonnerre, puis quand ça se frappe sur les d'autres roches à côté de toi, puis ça se brise en mille morceaux, tu peux même sentir l'odeur du feu, c'était assez effrayant. Moi, je m'en suis pris des roches sur la tête, sur le corps, sur la main, alors que je descendais en rappel. J'ai dû finir ma descente pendant les 4 dernières heures à une seule main en rappel. On sait qu'on a besoin de 2 mains, fait que c'était assez... Ouais, c'était assez
effrayant. Mais qu'est-ce qui pousse un alpiniste à se mettre un peu en danger comme ça, à vivre ces moments un peu extrêmes?
Ben, moi, j'aime dire, moi, dans la vie, ce que je fais, c'est de la gestion de risque. Je fais de la gestion de catastrophe. Et j'aime dire aux gens que je suis pas une preneuse de risque, mais bien une gestionnaire de risque. Puisque, dans le fond, au moment de mon ascension, c'est de la gestion de risque dynamique pure et dure. Je suis plutôt conservatrice en ce qui a trait au risque. Je veux dire, je me prépare vraiment beaucoup avant une expédition tout au long aussi. Je suis pas quelqu'un qui s'aventure si je trouve que je suis pas en situation où qui sont favorables. J'hésite pas à rebrousser chemin. T'sais, on connaît avec les grimpeurs la fièvre du sommet, qui est un espèce de phénomène qui se produit là, dans la tête où les grimpeurs coûte que coûte, ils doivent se rendre au sommet au détriment de leur sécurité. Moi, j'ai pas du tout ça. Moi, j'hésite pas à rebrousser chemin si je trouve que je pousse trop ma loc. Fait que j'aime dire que finalement, compte tenu de la situation, j'évalue et je suis toujours en train de me dire, OK, est-ce que ce que je fais, c'est too much? Est-ce que je dois rebrousser chemin? Fait que je suis plutôt de cet aspect-là. C'est sûr que là, le K2, c'était une situation qui était un peu différente. Je me suis jamais vraiment retrouvée dans cette situation-là au sens où j'étais en descente et il n'y a pas d'autre direction possible que de descendre plus bas. Il n'y a pas d'endroit où se cacher ou vraiment se mettre à l'abri des roches. Là, c'était quelque chose que je trouvais un peu moins le fun, mettons.
Comment avez-vous réagi d'ailleurs? On apprenait le décès de l'alpiniste québécois Dr Richard Cartier récemment. Est-ce que c'est venu miner un peu votre morale et votre confiance lorsque vous avez appris ça?
ce que les gens savent pas, c'est que nous, ça faisait déjà plusieurs décès auxquels on était confrontés. Le cas 2, le camp base du cas 2 est pas mal à mi-chemin entre le Broad Peak et le cas 2. Il y avait des gens qui étaient en train d'escalader le Broad Peak, les tentatives de pousser vers le sommet sur le Broad Peak ont débuté avant le cas 2. Il y a eu déjà 2 à 3 décès avant que nous, on pousse vers le sommet de push sur le cas 2. Il y a eu quelques autres décès sur le cas 2 aussi. Donc, ce qu'il faut savoir, puis c'est pas les premières fois, là, l'Everest, c'était la même chose, le Manaslu aussi. Chaque gros sommet, souvent, va amener justement des décès. C'est une réalité avec laquelle les grimpeurs, on est confrontés, malheureusement. C'est un sport extrême. C'est pas pour rien qu'on dit que c'est un sport extrême. Les dangers sont là. Mais c'est sûr que pour avoir côtoyé Richard Cartier, tu sais, entre Québécois, c'est pas un gros lot de Québécois, hein. Fait que je les ai côtoyés, lui et Justin, plusieurs fois. Puis, en fait, on a passé l'après-midi, la veille de leur décès, ensemble au camp 3. On avait justement le cœur léger, de bon esprit. Eux, ils avaient un plan un peu différent de nous. Ils prévoyaient faire le sommet de push vers le 27-28. Donc, ils étaient en rotation, qu'on appelle, au moment où moi, j'étais au camp 3. Et puis, j'étais vraiment loin de me douter que c'était pour être la dernière fois que je leur parle, que je lui parle à Richard. Donc, c'est sûr que quand je suis revenue au camp de base après le sommet de push, ça a été pas une agréable nouvelle. T'es loin de douter aussi avec quelqu'un d'aussi expérimenté que ce sera le sort qui lui sera réservé. Je pense que personne n'est vraiment à l'abri de ça. Personne ne mérite une fin tragique comme ça. Mais c'est sûr qu'on n'est pas sans y penser. Hein. Ça remet les choses un peu en perspective. Puis ça te fait te réaliser que faut que tu restes vigilant puis qu'il n'y a personne qui est à l'abri d'un sort comme celui-là. On s'expose à des risques, donc c'est sûr qu'il y a des chances que ça nous arrive à ça aussi.
Exactement, et c'est pas votre première montagne, évidemment. Vous avez fait l'Everest en 2021, le Kilimanjaro, le Denali, le Kartensur en Indonésie, le Manaslu au Népal. C'est quoi le prochain? Parce qu'une fois qu'on a fait le cadeau, là, j'ai comme l'impression que l'adrénaline, là, c'est plus difficile après monter le Mont-Tremblant.
C'est drôle. Écoutez, c'est pas les options et les idées qui manquent. Je pense que j'aurais pas assez d'une vie pour essayer de tout faire ce que j'aimerais faire. J'ai des envies d'expédition polaire, ça c'est sûr. L'Antarctique me fascine, m'attire au plus haut point. Ça fait 2 ans en fait que je suis supposée y aller avec la COVID. Ça fait 2 ans en fait que c'est remis. Donc ça c'est sûr que ça s'en vient pour moi. J'aimerais aussi avoir des expéditions ou des projets de nature que en fait, des trucs féminins. Écoute, c'était la première fois sur le K2 cette année où on était plus de filles que de gars. Les 6 filles dans notre équipe, on a tous réussi le sommet. Je suis super fière parce que quand j'ai commencé, moi, il y a 7 ans dans les sports d'aventure, j'étais toujours la seule fille dans l'équipe. Et puis là, je vois que c'est en train de changer puis ça me donne tellement de gosses. Je trouve tellement ça beau, j'ai envie d'encourager ça, j'ai envie aussi de donner le goût à plus de femmes, d'embarquer, d'emboîter le pas, puis pas juste dans les sports d'aventure, dans la vie, les autres sphères de la vie sociale en général. Je trouve que, tu sais, il y a beaucoup qui a été fait, surtout au Québec, mais c'est pas comme ça dans tous les pays, puis j'ai vraiment envie d'essayer de stimuler ça, si je peux faire quoi que ce soit, fait que ça, c'est sûr que ça me donne le goût. Peut-être des choses au Canada aussi, je connais moins mon Canada en matière de montagne. J'ai découvert, moi, cette passion-là alors que je vivais au Qatar. Fait que j'aurais envie justement de découvrir mon Canada, l'Asie centrale, le Kyrgyzstan, Tadjikistan. Bref, c'est pas les idées qui manquent.
Je vois qu'il y a quand même encore quelques défis d'adrénaline. Là. Je m'inquiétais pour vous, mais vous me dites que j'ai pas besoin de m'inquiéter. Vous avez ça de bonnes mains. Marie-Pierre Desharnais, c'était vraiment un plaisir de vous avoir parlé aujourd'hui. Puis félicitations encore pour votre succès, d'avoir gravi avec succès le K2, l'une des montagnes les plus difficiles au monde.
Un grand merci, ça me fait tellement plaisir et à bientôt.
À bientôt, j'espère. Au revoir.
Bye bye.
Voilà qui conclut l'émission d'aujourd'hui. C'était un plaisir de vous avoir avec l'ensemble de nos collaborateurs et invités. Je vous donne rendez-vous demain matin à 7h sur les ondes de Cube Radio.